chien. Et j'espère que c'est à chaque fois une joie pour nous d'ouvrir la parole de Dieu. Philippiens au chapitre 1. On avance tout doucement. Philippiens chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 27. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Philippiens 1, verset 27 à verset 30. Lisons la parole de Dieu. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Prions. Notre Dieu, nous te demandons ta direction, ton esprit qui nous illumine et nous aide à saisir les vérités de ta parole, à les recevoir et que par ton esprit, nous puissions aussi les mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. Nous arrivons donc dans cette première épître de ce premier chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, à la première exhortation. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est la première exhortation que nous trouvons dans l'épître. Les premiers versets, verset 3, commençaient par une action de grâce dans laquelle l'apôtre Paul remerciait Dieu pour les Philippiens. Il est dans la joie à cause de leur participation, la part qu'ils ont pris à l'Évangile. Il est persuadé que c'est une œuvre que Dieu a commencé dans leur cœur et qu'il amènera cette œuvre à sa perfection. Il exprime son amour pour ces Philippiens. Verset 7. Il pense à eux, il les chérit dans son cœur. Il prie pour eux, il leur dit même pourquoi il prie. Pour eux, ce qu'il demande à Dieu dans ses prières, pour eux, c'est un amour qui augmente de plus en plus en connaissance pour qu'ils soient capables de discerner ce qui est le meilleur. Et puis, après, à partir du verset 12, il parle de sa situation personnelle. Il dit « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé » et du verset 12 jusqu'au verset 26, il parle de sa situation de prisonnier, du progrès de l'Évangile malgré cette situation, des difficultés qu'il rencontre de la part d'autres prédicateurs, et puis de son attente et de son espérance. Et à partir du verset 27, là, il encourage les Philippiens. Et c'est la première, l'exhortation majeure même de toute l'épître. Et cette exhortation commence au verset 27, puis pratiquement on pourrait dire jusqu'à la fin, mais il y a toute une section qui va du verset 27 jusqu'au chapitre 2, verset 18. Hein. Chapitre 2, verset 13, 12, par exemple, l'apôtre, on voit qu'il reprend ici, suite de ce qu'il dit ici au verset 27. Entre-temps, il présente Christ dans son humilité, dans le fait qu'il se soit revêtu, puis qu'il soit venu sur la terre, dans l'humilité, qu'il ait subi la mort pour leur donner un exemple de ce que devrait être leur vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais ici, à partir du verset 27, cette exhortation, je l'ai dit, c'est la première, l'exhortation majeure de l'épître, elle est très importante. Très, très importante. Il dit seulement, C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il vient de dire avant, il dit, voilà ce qui est la chose la plus importante, c'est que vous vous conduisiez d'une manière digne de l'évangile de Christ. Nous aimons, chers frères et sœurs, chers amis, les privilèges qui sont parfois attachés à une situation particulière. Mais nous oublions facilement qu'avec ces privilèges, il y a des responsabilités. Et on parle parfois, ça nous arrive peut-être avec légèreté, de la grâce de Dieu. Ce que nous avons par la grâce de Dieu. Heureusement que l'on est sauvé par la grâce et pas par les œuvres. Comme si la grâce nous permettait parfois de vivre comme nous le désirons. Alors, ça nous permet de faire ce qu'on a envie, parce que de toute façon, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il y a un auteur qui dit que la grâce divine n'est pas accordée dans le but de libérer les hommes de leur obligation, mais plutôt dans celui de leur donner un motif encore plus puissant de s'acquitter diligemment et avec davantage de reconnaissance de ses obligations. Donc la grâce de Dieu nous donne encore un motif plus grand de nous acquitter de nos obligations. Et le chrétien a dans sa vie des obligations. C'est en quelque sorte l'exhortation que l'apôtre Paul adresse ici aux Philippiens. Certes, dit-il, il y a des bénéfices à être chrétien, des bénéfices qui sont liés à la condition de chrétien, mais il y a aussi de grandes responsabilités. Et l'exhortation générale de Paul dans ces versets est quelque chose qui doit être considéré au plus haut point, quelque chose qui doit nous préoccuper, au plus haut point. Car toute la première partie de cette lettre, bien sûr, est importante, d'une importance capitale, mais ici on arrive à ce que l'apôtre Paul va donner comme exhortation à ses Philippiens, et donc il nous faut prêter une oreille particulière à cela. Et cette exhortation, de quoi, nous place devant le plus grand danger qui nous guette, c'est celui d'oublier que le chrétien doit vivre une vie digne de l'évangile de Christ, que le chrétien a une responsabilité de mener une vie digne de l'évangile de Christ. Il ne doit pas être préoccupé par les choses secondaires, mais par les choses principales. Et donc Paul dit ici, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Voilà tout ce que j'aimerais que vous reteniez. S'il y a une chose que vous devriez faire, c'est cela. Vous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Alors, nous voulons voir dans ce passage, ce matin, le titre de notre méditation, c'est vivre d'une manière digne de l'évangile. Nous voulons voir, premièrement, l'obligation que le chrétien a, l'obligation d'une conduite digne de l'évangile de Christ. Ce n'est pas une option qui est proposée ici, c'est une obligation. Quand l'apôtre Paul dit ici « seulement », c'est comme s'il disait « seulement ceci », par-dessus tout ce que nous venons de dire, voici la chose importante. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc par-dessus tout ce contexte, on pourrait dire, de difficultés, d'emprisonnement, de souffrances, d'opposition que Paul subit et aussi que les Philippiens subissent, hein, d'après le verset 28, on voit qu'ils avaient des adversaires, il dit, voilà ce que vous devez faire. Faites seulement ceci, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc ce n'est pas une information qu'il leur donne ici, c'est une injonction, c'est un commandement, c'est un ordre auquel il faut absolument se conformer. C'est une obligation. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire au fait? Donc, premièrement, ça veut dire que le chrétien doit être conscient, de sa citoyenneté céleste. Alors, ça ne se voit pas tout de suite dans ce passage, mais quand le mot qui est traduit par « conduisez-vous » ici, c'est un verbe qui contient le mot « cité », la ville, l'État. Si vous voulez, le nom sous lequel est construit ce verbe, c'est celui que vous trouvez dans Philippiens 3, verset 20. Regardez Philippiens 3, verset 20, où l'apôtre Paul dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux ». Et quand le mot qui est utilisé pour le mot « cité », c'est le nom qui correspond au verbe « conduisez-vous » ici. Et donc, si on voulait traduire plus précisément, on dirait « vivez en citoyen » à la place de « conduisez-vous ». Quand on lit « conduisez-vous », on a l'impression que c'est une petite conduite. Là, ici, c'est « vivez comme des citoyens dignes de l'évangile de Christ ». Et d'ailleurs, la Bible Semeur traduit ainsi, il dit « quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume ». Et c'est une traduction qui est juste, je crois, pour ce verset 27. Donc l'apôtre Paul attire l'attention des Philippiens sur cette réalité. Il dit, vous devez vivre en citoyen des cieux. Seulement, voilà ce qui est important. Vous devez vivre en citoyen des cieux. Et cela avait une résonance particulière pour les Philippiens quand ils entendent ça. Parce que Philippe, la ville de Philippe était une colonie romaine. Lorsque Paul arrive à Philippe, la première fois pour y prêcher l'évangile, Actes chapitre 16 verset 12 nous dit que Philippe était une colonie romaine. Et en tant que colonie, les habitants de Philippe jouissaient de grands privilèges et des avantages liés à la citoyenneté romaine. Quelqu'un a écrit que une colonie romaine à l'étranger ressemblait à Rome en miniature. C'est comme si vous prenez toute Rome et puis vous la transférez dans cette partie. Et la colonie, c'était une Rome en miniature. On y parlait le latin, la loi romaine contrôlait l'administration locale et les impôts. Et de nombreux aspects de la vie publique se déroulaient comme dans la métropole romaine, comme en Italie. Et donc la plupart des grands fonctionnaires avaient les mêmes titres qu'à Rome. Donc tous les avantages de Rome étaient aussi donnés aux Philippiens parce qu'ils étaient une colonie romaine et donc des citoyens romains. Et donc les citoyens de Philippe avaient certainement une certaine fierté à être romains. Quand on regarde les autres alentours, n'avaient pas peut-être tous ces privilèges et eux pouvaient avoir peut-être des exonérations sur certaines taxes, etc., parce qu'ils étaient des citoyens romains. On peut comprendre parfois l'orgueil qui peut exister quand il y a de telles situations. Lorsque Paul arrive à Philippe, et vous vous rappelez, il y avait cette femme qui avait un esprit de Python, la Bible, et puis qui disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut », je crois qu'elle disait comme ça. Et puis Paul la délivre de ce mauvais esprit, et cette femme faisait, la Bible dit, faisait deviner des choses et puis procurait un grand gain à ceux qui l'employaient. Et lorsque ces personnes voient partir l'espoir de leur gain, eh bien, ils se mettent à attaquer Paul et Silas et puis ils se plaignent du fait que ces hommes sont venus prêcher l'évangile à Philippe. Et écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes, quoi? Romains, ils disent. C'est-à-dire, nous sommes des Romains. On n'a pas, on doit pas écouter ce genre de choses. C'était une fierté, là, de dire que, voilà, nous faisons allégeance à l'empereur et nous n'avons pas à écouter ce que ces hommes sont venus enseigner ici. Donc, il est important pour l'apôtre de rappeler à ces chrétiens de Philippe d'où ils sont en réalité en tant que chrétiens. Il dit attention, vous n'êtes pas, vous êtes passagèrement citoyen romain, mais vous êtes des citoyens des cieux. Donc vous devez vous conduire en citoyen. Et donc ça avait une résonance particulière pour eux parce que notre cité, à nous, dit-il au chapitre 3, verset 20, est dans les cieux. Et chers frères et sœurs, il est facile aussi pour nous aujourd'hui, je pense, de considérer avec orgueil telle ou telle facilité que nous pouvons avoir parce que nous habitons telle ou telle région du monde. J'habite en Europe, et puis on bénéficie de privilèges qui sont liés au fait d'habiter dans cette région du monde. Et on se sent citoyen de cette région du monde et on est fier de l'être. Et on peut oublier que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Que nous ne sommes pas premièrement, en tant que chrétiens, des citoyens d'une région du monde, mais nous sommes citoyens des cieux. Nous devons être comme Abraham qui attendait la cité céleste. Et on peut oublier, n'est-ce pas, cela. Le chrétien doit être conscient donc, qu'ici-bas, il n'a qu'une carte de résident. Hein, il a un titre de séjour qui... c'est juste un titre de séjour. Il n'est pas... Il n'appartient pas à ce monde. Jésus disait dans sa prière, en parlant de ses disciples, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Le chrétien appartient au royaume de Dieu. Et donc nous ne devons pas nous laisser envahir ou formater par notre culture. Et nous ne devons pas penser qu'au travers de notre culture en disant « Voilà, chez nous, c'est comme ça que l'on fait. » Mais penser que d'abord que nous sommes des citoyens des cieux. Et Éphésiens chapitre 2, je vais vous lire cela, ne regardez pas, mais Éphésiens chapitre 2, verset 21, l'apôtre Paul dit... ici, chapitre 2, verset, Éphésiens chapitre 2, pardon, verset 11. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous de ce que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Et le chrétien doit maintenir cela en son esprit, doit être conscient d'où il est en Jésus-Christ. Nous sommes, si vous êtes un enfant de Dieu, des citoyens des cieux. C'est ce que la Bible dit. Et cela est important à considérer. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, seulement ceci, vous êtes citoyens des cieux. Alors conduisez-vous en citoyens des cieux. C'est ça le sens de son exhortation ici. Donc, être conscient de la citoyenneté céleste. Et deuxièmement, le chrétien, d'accord, doit remplir sa responsabilité terrestre. Non seulement il est conscient qu'il est citoyen des cieux, mais il doit vivre en citoyenneté céleste. Il doit être conscient de sa responsabilité terrestre. Les Philippiens étaient conscients de leur privilège en tant que citoyens romains, parce qu'ils appartenaient à une colonie romaine, mais ils étaient tout aussi conscients des responsabilités qui étaient les leurs. Et l'une des responsabilités, souvent, était qu'on devait allégeance à l'empereur, ici. Et Paul leur dit, attention, vous êtes citoyens des cieux, ça n'est pas l'empereur qui est votre seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, au chapitre 3, verset 20, il leur dit... Chapitre 3, verset 20, il dit ici, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons, ou notre cité dans les cieux, si vous avez notre traduction, d'où nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. » Dans notre cité, nous attendons comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pas l'empereur, mais Jésus-Christ. Donc le chrétien doit remplir sa responsabilité aussi terrestre. Il doit vivre donc maintenant d'une manière digne. Vivre en citoyen, c'est vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire, vivre d'une manière digne? Et dans la Bible, hein, nous sommes plusieurs fois exhortés à vivre d'une manière digne. Éphésiens chapitre 4, verset 1 dit « Je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11-12, il dit « Vous savez que nous avons été pour vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne qui, de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Mais que signifie le fait de marcher d'une manière digne? Est-ce que ça veut dire que je suis digne? C'est pas moi qui devient digne ici. C'est l'Évangile qui a une dignité. Et je dois marcher selon cette dignité de l'Évangile. Le mot signifie méritant, ou ça signifie aussi avoir du poids, ou avoir le même poids que quelque chose d'autre, d'une autre valeur. Donc c'est comme s'il disait, en tant que chrétien, vous devez marcher d'un poids égal à l'Évangile de Christ. Vous devez vivre d'une manière digne de l'Évangile, ça veut dire que vous devez vivre de telle sorte que la dignité de l'Évangile, que son honneur paraisse à travers votre vie. Il doit y avoir une correspondance entre votre vie et les normes de l'Évangile. Votre vie ne doit pas être en dessous des standards de l'Évangile, ni en dessous des exigences de l'Évangile de Christ. Elle doit honorer l'Évangile. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit, par exemple, dans Tite, quand il dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être ni contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. » Vous voyez, il dit ce qu'il dit ici, il dit « Tu exhortes les serviteurs à être soumis. » Il dit, tu les exhortes à plaire en toutes choses, à ne pas être contredisant. Ça, c'est vraiment notre société, on apprend quoi? À se révolter, à faire des grèves, à faire des ceci, des cela. Et il dit, tu apprends à être non contredisant, à ne rien dérober, mais à toujours montrer une parfaite fidélité. Et il dit, dans quel but? Afin de faire honorer la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est-à-dire, c'est ça un peu marcher d'une manière digne. C'est-à-dire, tu as une vie, Paul dit aux Philippiens, vous devez avoir une vie qui fasse honneur à la doctrine de l'Évangile. Ça, c'est donc, on pourrait dire ici, chers frères et sœurs, l'obligation dans laquelle se trouve le chrétien. Nous avons obligation de vivre, donc, de considérer notre citoyenneté céleste, mais aussi de vivre d'une manière digne, de poids égal à l'Évangile de Christ. Mais quelles sont, deuxièmement, les marques d'une conduite digne de l'Évangile de Christ? Donc, les obligations, on a vu que c'est le chrétien a l'obligation de vivre une vie digne de l'Évangile, mais quelles sont les marques d'une vie digne de l'Évangile? Paul va passer ici d'une exhortation, on pourrait dire, générale, conduite digne de l'Évangile de Christ, à des recommandations plus spécifiques qu'il adresse ici aux Philippiens. Il va dire ici comment cette vie digne de l'Évangile doit se caractériser. Je crois qu'il commence ici au verset 27, mais ça poursuit jusqu'au chapitre 2, ou surtout au début du chapitre 2, où il parle de l'humilité, de l'unité que les chrétiens doivent avoir, et cela continue au chapitre 2, quand il parle aussi des choses que l'on doit faire sans murmure ni hésitation. Tout cela fait partie de la définition qu'il donne d'une vie digne de l'Évangile. Bien sûr, nous ne pourrons pas tout voir aujourd'hui, donc nous allons nous cantonner sur les versets que nous avons lus ce matin. Donc comment est-ce qu'il caractérise ici, dans cette partie-là, ce qu'est une conduite digne de l'Évangile? Premièrement, on pourrait voir ici qu'une conduite digne de l'Évangile est marquée par une fidélité indépendante de la présence humaine. Regardez le verset 27 encore. Il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent. C'est-à-dire, que je sois là, ou que je ne sois pas là, votre témoignage soit le même. J'entends dire de vous la même chose. Autrement, il est en train de dire que conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, et cela veut dire ici que vous devez demeurer fidèle, et votre fidélité ne doit pas dépendre de ma présence ou non. Il est en train de dire que la conduite digne de l'évangile est marquée par une fidélité qui est indépendante de la présence humaine. La même fermeté, le même engagement, le même combat, la même fidélité, la même attitude de service doit être observée, qu'il y ait des yeux pour voir ou pas, que l'apôtre Paul soit là ou pas. Au chapitre 2 et au verset 12 et 13, regardez chapitre 2, versets 12 et 13, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés », donc là il reprend la suite de son argumentation, « Ainsi, mes frères, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et on peut imaginer que peut-être dans cette lettre, dans ces nouvelles que les Philippiens avaient envoyées à Paul, ils ont dit « Ah Paul, c'était tellement plus facile quand tu étais là. » Là, on a du mal avec l'oppression, avec les adversaires, avec les lois roumaines. Et c'est difficile. Quand tu étais là, on pouvait au moins. C'est comme ça parfois. On est parfois attaché à des personnes et on a l'impression que ça va mieux quand ces personnes sont là. Mais Paul dit, vous devez travailler à votre salut, non seulement comme vous l'avez fait en ma présence, mais encore bien plus que je suis, d'autant plus que je suis maintenant absent. Il avait dit la même chose aux Galates, par exemple. Galates chapitre 4, verset 18, ne cherchez pas. Il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ça veut dire que c'est une tendance naturelle chez l'être humain, n'est-ce pas, de régler sa fidélité sur la présence ou l'absence des uns et des autres. On a un petit peu ce travers-là. On fait des choses, parfois, d'une certaine manière, parce qu'on sait qu'il y a des yeux qui nous regardent. On sait qu'il y a une autorité qui nous regarde, donc on va agir en fonction de cela. Et Paul dit non, non, non. Il dit seulement ceci. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est-à-dire, il dit, et que je vienne ou que je ne vienne pas, c'est la même fidélité, la constance que vous devez avoir. On connaît parfois des églises, n'est-ce pas, où quand le pasteur est là, il y a beaucoup de monde. Quand le pasteur n'est pas là, il y a un petit peu moins de monde. Hein, ça arrive parfois. D'accord. Et on a cette attitude. On organise une retraite, par exemple, ou une sortie. Et parfois, les gens demandent, mais qui vient? Pour savoir si je vais venir ou pas. D'accord. Ou parfois, si on sait qu'il y a telle personne, on y va, ou si on sait qu'il y a telle personne, on n'ira pas, parce qu'on n'a pas envie de la rencontrer. Et notre c'est pas la réunion qui importe, c'est la présence ou non des autres, parfois. Et Paul dit ici, soit que je vienne, ou soit que je ne vienne pas, soit que je vous vois, soit que je ne vous vois pas, vous devez vous conduire d'une manière digne de l'évangile, c'est-à-dire vous continuez à combattre, vous continuez à tenir ferme, même si je ne suis pas là. Donc ici, la fidélité, la conduite digne de l'évangile est marquée par une fidélité indépendante de la présence humaine. Et ajoutons que cette fidélité, en toutes circonstances, prouve que c'est Dieu qui agit. Parce que regardez ce que Paul dit au chapitre 2, versets 12 et 13 encore, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Et donc, cette fidélité indépendante des circonstances prouve que ce n'est pas Paul qui produit en vous le vouloir et le faire, mais c'est Dieu, parce que vous êtes fidèle, que Paul soit là ou que Paul ne soit pas là. Et c'est la preuve que Dieu est en train d'œuvrer en vous. Et Paul dit, faut le savoir, c'est Dieu qui œuvre en vous. Bien sûr, il utilise des hommes pour le faire. Bien sûr, c'est important qu'il utilise des hommes pour le faire. Mais votre fidélité, votre constance dans le service, dans l'obéissance, ne doit pas dépendre de la présence ou non d'un serviteur. Donc ça, c'est la première marque que l'apôtre Paul donne ici d'une conduite digne de l'évangile. Une seconde ici, il montre que la conduite digne de l'évangile est marquée par l'unité des croyants pour la foi de l'évangile. La conduite digne est marquée par l'unité des croyants. Regardez encore le verset 27. Il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. » Donc il dit ici, vous allez demeurer ferme dans un même esprit. Donc il y a une chose ici qui montre l'unité. Une deuxième chose, d'une même âme. Et une troisième qui n'est pas très visible ici, il dit combattant. Et ça n'est pas très, très lisible ici, mais je vais vous la lire dans la version Darby qui est beaucoup plus littérale. Il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne, soit que je vous vois, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit. Et puis il dit, combattant ensemble. C'est comme ça que ça devait être traduit. Combattant ensemble d'une même âme. Le mot qui est utilisé pour le mot combattant, c'est en fait la composition de deux mots et qui veut dire, dont l'un veut dire avec et l'autre veut dire athlète. Donc c'est-à-dire des athlètes, l'idée c'est des gens qui font partie d'une même équipe et ils combattent ensemble. Ils ne combattent pas l'un contre l'autre. Ils combattent l'un avec l'autre, ensemble. Et donc il y a ici une triple évocation, si vous voulez, de l'unité. Il dit donc, vous devez tenir ferme dans un même esprit, combattre ensemble et dans d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et donc la conduite digne de l'évangile est marquée par l'unité des croyants. L'unité des croyants dans l'amour pour la foi de l'évangile. L'une des premières choses que vise l'ennemi est de semer la division entre les chrétiens. Et la marque distinctive dans la vie du croyant, c'est l'unité. C'est ce que Jésus dit dans sa prière en Jean chapitre 17. Regardez Jean chapitre 17. Le Seigneur Jésus dit dans sa prière, parle de l'unité des croyants dans sa prière, et à partir du verset 20, Jean chapitre 17, verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement, c'est-à-dire pour les disciples, seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous aussi, qui croyons à la parole qui a été écrite ici, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Vous voyez ce que Jésus dit ici? Il dit que cette unité visible dans la vie des croyants, quand le monde verra cette unité, le monde aura une idée de l'évangile, que Christ est vraiment celui qui a été envoyé par Dieu, en regardant l'unité des croyants. Et donc, une vie digne de l'évangile, c'est une vie qui manifeste l'unité, une vie qui est marquée par l'unité des croyants. Le croyant, le chrétien doit se conduire d'une manière digne, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, il dit, il doit se conduire d'une manière digne en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Donc nous devons, chers frères et sœurs, prier et faire tous nos efforts pour ne pas être nous-mêmes des agents de division. Et donc, dans notre conduite digne de l'évangile, nous devons faire tous les efforts pour rechercher l'unité. Et il faut être conscient que le diable cherchera toutes les occasions possible pour semer la division et pour faire s'introduire la division entre les frères et sœurs et donc dans l'Église. Dans cette même lettre au chapitre 2, versets 1 à 4, l'apôtre Paul parle de cette unité qui est menacée. Regardez ici Philippiens 2, chapitre 2, verset 1. Philippiens chapitre 2, verset 1, il dit « Si donc il y a quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. » C'est d'unité qu'il parle ici. « Un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, il est en train de viser une menace à l'unité de l'Église ici. Et puis, au chapitre 3, versets 15 et 16, on voit donc que, ici, donc, dans ce que nous venons de lire, que l'unité est menacée par le manque d'humilité que l'on peut avoir. Chapitre 3, versets 15 et 16, regardez. Il dit ici, « Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes d'un autre point, de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » C'est encore un appel à l'unité. Mais ici, il montre que l'unité est menacée par des opinions ou des avis différents. Parfois, la Bible ne dit pas qu'on ne doit pas avoir des opinions ou des avis différents. Et la plupart du temps, c'est sous des choses secondaires que nous les avons. Mais nous faisons de ces différences, parfois, d'opinions, des choses que nous mettons en premier, et puis nous risquons la division à cause du poids que nous accordons parfois à certaines choses qui sont secondaires ou à notre opinion personnelle. Et Paul montre ici, attention, il faut marcher d'un même pas. Si vous êtes d'un avis, Dieu va vous éclairer, un avis différent. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que les chrétiens marchent d'un même pas. Et puis chapitre 4, versets 2 et 3, chapitre 4, versets 2 et 3, ici il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche, deux femmes, à être d'un même sentiment » dans le Seigneur. Paul ici montre que l'unité peut être menacée par un différent personnel. Parfois, on peut avoir dans l'Église un différent entre deux personnes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite régler les choses pour que l'unité revienne. Parce que le diable peut utiliser ce différent pour semer la division. Et nous devenons par ce fait des vecteurs, des agents de la division, et tous, autant que nous sommes, nous pouvons être des agents de division que le diable utilise. Donc, il nous appartient, chers frères et sœurs, d'être vigilants là-dessus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infecté. » Il dit c'est notre responsabilité de veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui puisse semer du trouble, ni dans notre cœur, ni dans celui des autres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre d'une manière digne de l'Évangile? Eh bien, il faut être vigilant sur toutes ces choses. Dès qu'une racine d'amertume apparaît, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme dans le jardin, on voit une vieille herbe qui pousse, qu'est-ce qu'on fait? On arrache. Si on n'arrache pas tout de suite, ça s'étale et après ça devient très très compliqué. J'ai pas enlevé tout de suite une petite tige de lierre qui avait poussé sur ma clôture il y a quelques années. Et puis la semaine dernière, j'ai essayé de déraciner, c'était quasiment impossible. Ça s'accroche partout. Il faut presque enlever carrément la clôture pour pouvoir enlever les lierres. Pourquoi ? Parce que on n'a pas, au moment où il fallait, fait l'effort qu'il fallait. Et c'est notre responsabilité. S'il y a des choses qui doivent être réglées, il faut les régler tout de suite pour éviter que le diable ne s'insinue. La plus petite faille sera exploitée, la plus petite querelle, le plus petit refus d'aimer, le plus petit refus de pardonner, la plus petite calomnie que l'on peut prononcer. Tout cela sera utilisé systématiquement par l'ennemi comme point d'entrée pour une division. Et notons ici très rapidement quel est l'objet encore de cette unité. C'est que, il dit ici, que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'Évangile. C'est ça qui doit, l'unité doit avoir un objet. Et quand il parle ici de la foi de l'Évangile, il parle de l'ensemble des vérités essentielles de l'Évangile. Cela doit constituer ce vers quoi je tends et ce pourquoi je me bats et ce pourquoi je tiens ferme. C'est ce que Jude dit, par exemple, quand il dit « Bien-aimé, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. » Donc, quand il parle de cette foi qui est transmise, c'est l'ensemble des vérités essentielles de l'Évangile. Le chrétien doit chercher l'unité autour de ce qui est essentiel dans l'Évangile. Et le caractère de cette unité, eh bien, c'est qu'il doit, il est à la fois, on pourrait dire, défensif et offensif. Il doit demeurer ferme, ce qu'il dit, et puis il doit combattre. Demeurer ferme dans un même esprit et combattre d'une même âme. L'Évangile exige une attitude à la fois défensive et une attitude aussi offensive. Les chrétiens doivent être unis dans la fermeté, doivent tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a beaucoup de passages qui nous exhortent à cela. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il faut être conscient que le diable est rusé, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et donc les chrétiens doivent tenir ferme. Ils doivent tenir la position. Hein. C'est comme une armée, c'est des termes militaires ici. Hein. Il doit tenir la position, ne pas reculer pour faire front, faire face aux difficultés. Mais il doit aussi combattre. Et on va dire que le terme combattre, c'est combattre ensemble. Hein. Donc c'est-à-dire, d'autres textes traduisent, ils sont coude à coude. C'est, vous avez déjà vu peut-être dans les films anciens où il y a les Romains avec le grand bouclier et puis chacun l'un à côté de l'autre. Et puis ça fait un grand mur ici et ils avancent ensemble. Eh bien, c'est un petit peu cette idée-là. On se tient coude à coude et on avance ensemble. On combat ensemble pour la propagation de l'Évangile, pour que les âmes soient touchées, les âmes soient sauvées. Mais on ne se bat pas l'un contre l'autre. On se bat l'un avec l'autre pour le progrès de l'Évangile. Quand on se bat l'un contre l'autre, chers frères et sœurs, on est certain que l'on se trompe de cible. Et ce que l'on vise, ce que l'on risque de détruire, c'est l'unité. Et puis, dans une troisième marque que l'on peut voir aussi de la conduite digne de l'Évangile, c'est que la conduite digne de l'Évangile est marquée par le bannissement de la crainte. Regardez ici, il dit « sans vous laisser effrayer, aucunement effrayer par les adversaires, ce qui sera pour eux, dit-il, une preuve de destruction ». Donc le terme ici qui est employé pour dire « sans vous laisser effrayer » est celui qu'on utilise pour parler de l'intimidation des chevaux. Les chevaux sont très très vite intimidés quand il y a un obstacle ou quelque chose d'inattendu qui surgit. Il dit que le chrétien ne doit pas se conduire avec cette même attitude. Il ne doit pas se laisser intimider ou effrayer par des adversaires. L'Évangile aura toujours des adversaires. L'Évangile a eu des adversaires. L'Évangile a aujourd'hui des adversaires. Et l'Évangile aura demain des adversaires. Et l'apôtre Paul dit même que les adversaires sont nombreux. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, il dit « les adversaires sont nombreux ». Et le chrétien doit le savoir. Mais il ne doit pas se laisser effrayer par l'adversité. Paul avait dit aux anciens d'Éphèse que quand il sera parti, eh bien, il y aura de la difficulté qui va surgir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Les adversaires sont parfois extérieurs à l'Église, mais parfois ils sont aussi intérieurs. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous ». S'introduire, c'est de l'extérieur qu'on s'introduit. « Il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels » qui n'épargneront pas le troupeau. Et il ajoute qu'il s'élèvera du milieu de vous, ça c'est de l'intérieur, du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc il ne faut donc il faut donc le savoir, mais ne pas se laisser effrayer. Et c'est vrai que parfois on se laisse facilement effrayer par la difficulté. Nous sommes timorés, nous sommes craintifs face au monde. Ils sont paraissent plus nombreux que nous. Ils semblent être plus intelligents. Ils ont les lois pour eux. Leurs idées, leurs opinions trouvent beaucoup de support pour se propager. Et on peut vite être effrayé face à ceux qui s'opposent à l'Évangile. Mais Paul dit ici, vivez en citoyen des cieux et n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Il semble dire qu'on est effrayé parce qu'on se laisse effrayer. On ne devrait pas. Il dit, ne vous laissez pas effrayer. Ne soyez pas craintifs parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque l'Évangile a commencé à se propager au tout début de l'Église, vous vous rappelez d'Actes chapitre 4, eh bien, les apôtres avaient été arrêtés, battus, on les avait défendus avec menace d'annoncer l'Évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas laissés intimider ni effrayer, ils ont prié. Et ils ont prié ceci, ils ont dit, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et le texte dit plus loin qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont pu annoncer avec une pleine assurance. Et nous pouvons encore aujourd'hui faire cette même prière lorsque nous nous sentons intimidés ou effrayés par des gens qui semblent plus intelligents que nous, plus structurés dans leurs pensées, qui... La Bible nous dit que nous avons la possibilité de demander à Dieu de l'assurance. Jésus même avait dit à ses disciples, ne vous tracassez pas l'esprit quand on vous arrêtera pour savoir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire. À l'instant même, il dit, le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut dire. Dieu, c'est une promesse que Dieu fait. Donc nous n'avons pas besoin d'être intimidés. Donc les marques d'une vie... D'après ce passage digne de l'Évangile, c'est une vie qui est vécue fidèlement, quelles que soient les circonstances, présence ou pas présence des serviteurs de Dieu. C'est une conduite qui est marquée aussi par le bannissement, bien sûr, de la crainte, et puis par l'unité des croyants dans l'amour. Et puis troisièmement, dernier point, ici, Paul montre, donc après avoir... insister sur l'obligation d'une conduite digne de l'Évangile, après avoir donné les marques de cette conduite digne de l'Évangile, il dit qu'il y a une démonstration qui est produite par une conduite digne de l'Évangile. La démonstration produite par l'Évangile, par la conduite, pardon, digne de l'Évangile. Versets 27 et 28. Il dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. » Et voilà le point qui nous intéresse. « Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Paul dit que la conduite digne de l'Évangile, telle qu'il l'a décrit ici, avec des chrétiens qui vivent vraiment l'Évangile, dans l'unité, qui tiennent ferme, qui combattent, qui ne se laissent pas effrayer, il dit que cela est une démonstration de deux choses. D'abord, démonstration de perdition pour les adversaires, et de salut pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent une vie persévérante, une vie digne de l'évangile de Christ. Quelle preuve voudrions-nous, chers frères et sœurs, donner au monde que l'évangile est la vérité? Comment voudrions-nous que Dieu montre au monde que tous les opposants de l'évangile, ils ont tort et que ses enfants ont raison? Il nous semble logique de croire que eh bien, si Dieu opérait, par exemple, une délivrance spectaculaire pour l'apôtre Paul, qui sortait de la prison, ce serait le signe, voilà, de la grande puissance de Dieu et que l'évangile a raison et que ce que Paul prêchait et juste, n'est-ce pas? Un peu comme le peuple d'Israël, lorsque il a quitté l'Égypte, vous vous rappelez, et puis que toute l'armée de Pharaon s'est assemblée derrière et puis a commencé à les poursuivre. Ils avaient l'armée de Pharaon derrière et puis la mer en face, n'est-ce pas? Ils ont commencé à crier et Moïse leur dit « Stop, calmez-vous, restez tranquilles, regardez, vous allez voir la délivrance que Dieu va vous apporter. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'armée a été engloutie, Israël a pu passer à travers la mer. Et puis, quand les Égyptiens sont rentrés, eh bien, ils ont été submergés et ils ont été détruits, anéantis. Et c'est ainsi que nous aimerions, n'est-ce pas, que Dieu montre sa puissance, qu'il nous délivre de manière spectaculaire à la face du monde des difficultés quand nous sommes en difficulté. Ça sera le signe que nous avions raison. Mais c'est pas ça que le Saint-Esprit dit ici par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Il dit quoi? Il dit, lorsque le monde verra que vous êtes réduit à la plus simple extrémité à cause de la souffrance, de l'opposition que l'on vous fait, et que vous tenez ferme sans jamais renier Christ, ce sera pour lui la preuve qu'il est en perdition. Il dit que le chrétien qui tient ferme dans l'adversité, qui marche uni avec ses frères et sœurs dans l'amour, qui combat malgré les difficultés, il dit ça, c'est une preuve de perdition. C'est une preuve pour ceux qui s'opposent qu'ils n'arriveront jamais à éteindre l'évangile ni à anéantir votre foi. Et ce sera une preuve pour eux qu'il y a une puissance surnaturel qui agit en vous. Mais ce sera pour vous aussi la preuve que vous êtes au Seigneur et que vous êtes véritablement son enfant. Ça n'est pas quand Dieu délivre de manière spectaculaire ses enfants que ça donne une preuve suffisante que ces personnes appartiennent à Christ. Il dit non, la preuve que Dieu veut que vous montriez à la face du monde, c'est celle qui consiste à résister face à l'adversaire, à persévérer jusqu'au bout, à rechercher l'unité. C'est cela qui va montrer que vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit ailleurs, dans 2 Thessaloniciens 1, versets 4 et 5, il dit « Ainsi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi, au milieu de vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » C'est une preuve, dit-il, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Il dit, vous souffrez, mais votre souffrance est la preuve du jugement de Dieu sur ceux qui vous font souffrir. Voilà la logique de Dieu, la logique de l'évangile. Et c'est pour cela que une vie digne de l'évangile, c'est une vie qui doit se vivre dans la persévérance malgré la difficulté. C'est la preuve que Dieu va vous délivrer aussi. Bientôt, il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Plus loin, il dira même que c'est une grâce de souffrir. La souffrance est un don de Dieu, il dit au verset 29 de Philippiens chapitre 1. Parce qu'il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, mais de souffrir pour Christ. Il dit, toutes ces choses-là constituent la preuve de Dieu, que vous lui appartenez et que les autres ont tort. Alors, chers amis, ne brandissons pas la délivrance spectaculaire comme preuve qu'on appartienne à Dieu. Oui, Dieu peut délivrer de manière spectaculaire. Il a délivré de manière spectaculaire Daniel de la fosse au lion, n'est-ce pas? Et ses trois amis de la fournaise ardente. Mais il a laissé décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Ou Étienne. Et alors qu'il a délivré Pierre de sa prison. Donc Dieu peut délivrer, puis il peut ne pas délivrer. Ce qui est la vérité sur laquelle on doit s'accrocher, c'est que Dieu est préoccupé par le fait de montrer au monde la puissance de l'évangile agissant dans le cœur de ses enfants par la persévérance qu'il leur donne malgré la difficulté. Et persévérer de cette manière-là, c'est la preuve que la vie qu'il y a dans le croyant est une vie indestructible. Et cette ainsi qu'il plaît à Dieu de montrer sa puissance au monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, verset 29. Et cela vient de qui? De Dieu. Cela vient de Dieu, la souffrance vient de Dieu, la foi vient de Dieu, les adversaires viennent de Dieu. Il dit, et Dieu utilise tout cela comme preuve de perdition et de salut. Et nous devons être extrêmement attentifs à cela. Je termine avec quelques mots de conclusion, chers frères et sœurs. L'évangile est un don gratuit, mais il nous coûte toute notre vie. Paul dit, conduisez-vous, vivez en citoyen, tous les jours de votre vie, ça veut dire. Pas que le dimanche, pas avec des mots seulement, mais vivez d'une manière digne, d'une manière qui honore l'évangile. Ici, nous aimons exprimer l'amour de Dieu qui s'est manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ. Hein. Mais il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs, que le sacrifice de Christ appelle le nôtre aussi. L'apôtre Paul, après avoir exposé dans les 11 premiers chapitres de Romains tout ce qui est la justification par la foi en long et en large, il commence le chapitre 12 par cette exhortation. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, je vous exhorte donc, c'est-à-dire en fonction des 11 premiers chapitres, à offrir votre vie, votre corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice de la vie. L'évangile exige que notre vie entière soit sacrifiée à Christ. Deuxième remarque que je voudrais faire, la crédibilité de l'évangile, chers frères et sœurs, est liée à la manière dont nous vivons l'évangile, plus qu'à la manière avec laquelle nous parlons de l'évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? La crédibilité de l'évangile. Le monde verra que l'évangile est vrai, pas simplement par ce que nous disons de l'évangile, mais par comment nous vivons l'évangile. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, seulement ceci, vivez en citoyen des cieux, en étant unis, en combattant coude à coude, en serrant les rangs pour tenir ferme contre les adversaires. Ce sera pour eux une preuve de leur perte et pour vous une preuve de salut. Parce que la crédibilité de l'évangile est liée à la manière dont nous vivons l'évangile. Parfois nous pouvons professer quelque chose et nous faisons autre chose. Et nous discréditons l'évangile. C'est Jésus, hein, c'est le prophète Isaïe, il dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous pouvons chanter de manière merveilleuse le dimanche matin, mais vivre une vie qui est contraire à ce que nous avons chanté. Et nous discréditons l'évangile. Peu importe si nous disons de belles choses de l'évangile. Mais notre vie discrédite l'évangile. Et Dieu veut que l'évangile soit vécu dans notre vie, pas simplement dans notre bouche. Que cela nous fasse réfléchir. Et puis, le Seigneur est préoccupé, chers frères et sœurs, à donner à la face du monde la preuve de la puissance de l'évangile à travers l'opposition. Il est plus préoccupé par cela, hein, à travers notre persévérance dans l'opposition, plus que par le fait de nous apporter plus de confort dans notre situation. Dieu n'est pas préoccupé par le fait de nous apporter du confort ou de faire disparaître notre souffrance. Ce qu'il veut, on le voit dans ce passage, l'apôtre Paul dit, c'est présenter au monde la preuve que l'évangile est la puissance de Dieu. Il veut le faire au sein de la souffrance et de la persévérance de ses enfants dans la souffrance. Le prophète Isaïe dit que même pour Christ, il dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Son propre fils, il lui a plu de le briser par la souffrance. Et il plaît à Dieu aussi de montrer, d'offrir au monde une preuve de la vérité, de la puissance de l'Évangile, à travers la vie de ses enfants, de leur persévérance, jusqu'au bout, malgré les difficultés. Alors je voudrais dire que parfois nous avons plein de petites difficultés qui peuvent surgir, qui peuvent nous arriver, etc. Bien, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chercher à voir comment ces difficultés, nous pouvons les utiliser comme un témoignage de la véracité de l'Évangile dans notre vie. Ne faisons pas le jeu de l'ennemi. Ne soyons pas des vecteurs de division. Mais demandons au Seigneur de nous donner la sagesse pour ne pas gaspiller, les difficultés ou les souffrances dans lesquelles il nous place. Si nous les vivons d'une manière digne de l'Évangile, nous pouvons offrir au monde une preuve de leur perdition et de notre salut. Et donc si nous leur offrons une preuve de leur perdition, nous leur donnons en même temps, n'est-ce pas, un appel à se repentir, à se détourner du mal. Mais si nous vivons d'une mauvaise manière, ben, nous discréditons l'Évangile et cela n'appelle pas les autres à l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à saisir ces choses. Seulement, dit l'apôtre Paul, seulement ceci. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, de Christ. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et nous devons être honnêtes et reconnaître que nous cherchons bien souvent à vivre comme cela nous plaît. Mais nous te prions que par ton esprit, ta parole fasse son œuvre dans notre cœur. Tu connais tous les recoins de nos pensées. Tu sais même avec quelle profondeur ou quelle légèreté nous avons écouté ta parole aujourd'hui. Et nous te prions que tu agisses en nos cœurs pour qu'elle puisse être reçue telle qu'elle est véritablement. Enlève tout ce qui n'est pas de toi et fais pénétrer ta vérité au fond de notre cœur pour la gloire de ton nom. Amen.